M. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Pour débuter ce LEM, nous sommes avec David Pliquet, fondateur d'Images in 3D. La structure est implantée à Camaret. Alors pour faire simple, et vraiment très simple, c'est une entreprise dédiée aux nouvelles technologies. On essaiera de comprendre ce que conçoit Image in 3D au fil de l'eau, au fil de la discussion. Et ce qui va nous intéresser peut-être dans un premier temps, c'est de discuter du contexte, de la situation, comment une entreprise vit cette période. Bonjour David.
Oui, bonjour Pierre-Yves.
Alors comment elle vit cette période Image in 3D?
Paradoxal, c'est la situation. La situation est très étonnante en fait. De notre côté, on a des produits, on a des solutions, on est reconnu pour tel. Donc ça, c'est le côté extrêmement positif. Et puis de l'autre côté, il se passe quand même un grand trouble dans le pays. Trouble au niveau des commandes, trouble au niveau de l'enthousiasme qui est nécessaire pour l'activité économique. Donc voilà, on est sur nos deux jambes, mais on s'interroge quand même.
Il y a des questions. Bon, on va y venir progressivement. On associe toujours, très souvent, nouvelles technologies et start-up modèles. C'est quelque chose qui vous convient, ça? Je fais exprès de poser la question.
Pas du tout. Non, pas du tout. C'est une excellente question, hein, Pierre-Yves, on en a un peu parlé. Moi, je considère que le start-up modèle, la start-up nation, c'est un laboratoire, en fait, de démantèlement des structures sociales traditionnelles, en fait. Donc, on met des baby-foot, mais on travaille 20 heures par jour. Donc, c'est pas vraiment mon objectif, en fait.
C'est quoi le modèle d'Image in 3D?
Le modèle d'Image in 3D, c'est la créativité et, on va dire, la culture, ou le monde culturel, l'influence culturelle au service de modifications profondes dans des secteurs un petit peu figés. Donc, nos principales avancées ont été faites dans le monde de l'industrie, par exemple, qui est, lui, un monde assez monolithique, hein, voilà, qui travaille sur le même principe depuis très très longtemps. Alors, il y a eu des évolutions, des adaptations, c'est sûr. Mais l'idée, c'est finalement de produire toujours plus en un minimum de temps pour essayer de conserver un maximum de marge. Dans le temps, quand on était finalement peu concurrencé, on arrivait à générer suffisamment de marge pour faire tenir finalement les sociétés, en fait. Hein. Et puis finalement, avec l'ouverture à la concurrence mondiale, on s'aperçoit que ce schéma-là est très attaqué. Et donc, il faut aller chercher des sources d'évolution dans d'autres domaines. Et donc, il y a deux visions, pour moi, qui sont assez claires. D'un côté, il y a la recherche de la productivité maximum avec, de par la conjoncture, une réduction des marges. Donc, une situation d'inconfort qui amène à l'analyse du fichier Excel. Voilà, donc on va analyser le fichier Excel, on va aller voir donc le résultat à la fin dans la dernière case du fichier. Hein, et si le résultat est vert, on est content. S'il est rouge, on est très mécontent. Donc globalement, comme il est de plus en plus proche du rouge...
Comment on fait pour sortir de cette logique binaire?
Et ben pour sortir de cette logique binaire, il faut mettre énormément d'aspects intelligents. Et l'intelligence de l'individu, c'est... Et de l'être humain, hein, c'est sa définition, c'est sa soif de culture, en fait. Donc sa soif de curiosité, sa capacité, en fait, à transmuter des situations avec des nouveaux outils. Et donc c'est ça c'est vraiment ce qu'on fait, c'est vraiment ce que je souhaite faire. Et ça fait 7 ans qu'on est dans cette démarche, et honnêtement, c'est un plaisir quotidien de pouvoir réinventer des solutions qu'on croit figées, mais qui ne sont vraiment jamais tout à fait, quoi.
Cette période, elle a permis de réfléchir un petit peu sur l'innovation. Est-ce que pendant ces 6 derniers mois, vous avez réfléchi à de nouveaux produits, à de nouvelles façons de faire?
Clairement, ouais. Déjà, on a pu profiter de cette période pour finir les idées que nous avions en tête, en fait. Et on a développé trois plateformes qui sont des plateformes numériques. Et on a pu donc vraiment aller au bout de notre envie à la fois d'intégrer ces outils et de les finir et comment de les industrialiser, c'est-à-dire donner la possibilité de les diffuser assez facilement, quoi. Voilà.
Et le contexte vous a pas fait prendre de direction différente sur des secteurs à éviter, par exemple, c'est des choses que vous avez pris en compte, par exemple, je sais pas, ce serait pas une super bonne idée d'aller vers tout ce qui est aéronautique en ce moment, ou pas?
En fait, nous, on est quand même parti dans... je vous ai parlé de trois plateformes. Il y en a une qui est la détection des TMS, les troubles musculo-squelettiques. C'est un enjeu majeur, hein, parce qu'au final, quand on revient au premier propos qui était le gain de productivité, il y a deux manières de considérer la productivité. Soit c'est la machine et la robotisation qui vous l'apporte, ou soit c'est le soin et l'intérêt que vous portez à vos collaborateurs. Vous ne souhaitez pas que vos collaborateurs soient blessés, malades.
On y revient, la prise en compte de l'individu.
La prise en compte de l'individu, évidemment. Et donc, on a développé cette solution. Cette solution nécessite d'aller faire des prises de mesure dans les ateliers. Donc, clairement, dans une période de confinement où les ateliers sont super étanches pour éviter l'arrivée des virus, c'est pas la meilleure stratégie qu'on ait eue à mettre en œuvre dans les dernières semaines. Mais indépendamment de ça, les enjeux sont tellement importants que c'est évident qu'on est dans le vrai, quoi.
Alors, vous avez parlé des TMS, la prévention, mais sinon, sur quoi d'autre a pu travailler Imagine 3D ?
On a travaillé sur un autre sujet qui, lui, est Covid et qui est le parfait pendant de la situation que je vous décrivais. Quand on ne peut pas accéder aux ateliers, il n'y a pas que nous, hein, il n'y a pas que Imagine 3D qui ne peut pas y aller. Il y a même, en fait, parfois, dans certaines entreprises, le bureau d'études qui ne peut pas descendre les escaliers pour aller visiter les éléments de production, les machines de production, et qui pourtant, bureau d'études, doit intervenir sur ces machines pour les améliorer, et donc en fait, il y a un problème. Et donc nous, on a développé une autre plateforme, c'est la seconde plateforme que l'on a sortie, qui permet en fait, sur base de photos, donc de photos 360, de pouvoir donc garantir ces visites, mais non seulement on garantit les visites, mais en plus on les commente, c'est-à-dire que dans la photo 360, on vient, comme avec des post-it, en fait, positionner de l'information technique pour avoir justement cet élément de conversation entre différents services d'une entreprise, mais aussi donc la possibilité d'envoyer ces informations à l'extérieur. Voilà. Et parmi les interventions, et là on est très très fiers de ça parce que c'est un enjeu technique en fait, on donne la possibilité dans une photo 360 de prendre des mesures précises au centimètre près. Donc dans une photo, avec les effets, vous savez, de perspective, de parallaxe, enfin, ce qui fait la caractéristique d'une photo, en plus, 360, c'est-à-dire dans une sphère complexe, nous avons des prises de mesure linéaires précises au centimètre. Ça, c'est une innovation extrêmement forte, hein, c'est très 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 important.
Alors par rapport à d'autres structures, pour faire tout ça, vous êtes implanté sur Camaret,
ouais.
Double isolement en ce moment, ou pas?
Heureusement qu'on a la mer pour nous évader un peu. Non, je pense qu'à Camaret, on est privilégié. Hein, quand je vois un peu la situation et quand je pressens la situation dans certains quartiers de grandes villes, je pense que notre choix initial qui a été de s'installer hors des grands complexes...
Là, il est payant.
Est payant, ouais, c'est justifié en fait.
Ça vous change quelque chose par rapport à d'autres structures? Bon, Camaret, c'est pas la Silicon Valley, on est à peu près d'accord. Cette situation de périphérie, elle est rare dans le monde des nouvelles technologies?
Non, je pense pas qu'elle soit rare. Vous avez aussi vu, comme moi, les informations récentes. 700 km de bouchons au départ de Paris il y a 2-3 jours. Les gens ont bien été quelque part. Hein. Je pense qu'ils ont été assez attirés par les extrêmes. Hein. Et donc, ce qui était il y a 7 ans une espèce de choix presque pas bien compris, aurait tendance à devenir une réalité. Le problème, c'est que nous, on l'a fait consciemment et qu'on l'a fait en toute connaissance de cause. Et aujourd'hui, il me semble que c'est des choix qui sont un peu des choix forcés. Donc, évidemment, ça pose question, quoi.
Et comment on fait quand on est chef d'entreprise là, dans ce contexte pour veiller au bien-être de ses salariés? Puisque visiblement ça a l'air d'être quelque chose de super important chez Imagine 3D, comment vous faites ça?
Moi, c'est compliqué en fait, hein, je vais vous dire, et ça je pense qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui en parleront. Hein. Les périodes de confinement, les périodes de télétravail sont des périodes où les collaborateurs intériorisent beaucoup de leurs difficultés, de leurs doutes personnels. Et ce ne sont pas des périodes de grand confort moral. Donc l'entreprise, c'est un maillon essentiel de la vie, on va dire, de nos sociétés modernes, hein, évidemment, hein, c'est un agent de liaison. Dans cette période-là où on éclate un peu ce noyau, les personnes peuvent se retrouver seules. Et il y a deux types de personnes, à mon avis, celles qui ont la structure mentale, émotionnelle, psychologique pour tenir cet relatif isolement, et ceux qui ne l'ont pas, ou sont mal préparés. Et même si on a une petite équipe, nous, on s'est aperçu de quelques éléments de fragilité chez certains de nos collègues. Et donc, ça interroge pas mal quand même.
Ouais, le télétravail, c'est pas la panacée, quoi.
Non, le télétravail, c'est pas du tout la panacée. Non. Quand c'est bien préparé, il n'y a pas de problème. Quand c'est suivi et que... Non. Il faut être très, très modéré. Et je vous ai dit...
C'est une solution... c'est pas une solution. C'est, quand on reviendra à un fonctionnement à peu près normal, c'est pas un truc qu'il faut garder?
Bah, à mon avis, ça se pose pas vraiment dans ces questions. Le télétravail est imposé pour réduire les charges locatives des entreprises, on est à côté de la plaque en fait. Si par contre le télétravail est proposé pour améliorer le confort du collaborateur dans la pression qu'il peut connaître au travail, là on est en phase de progrès. C'est toujours un peu la même chose, quoi. Si c'est pour une recherche de productivité au fichier Excel, non, moi je suis vraiment sorti, enfin j'essaie de sortir de là. Si c'est une recherche d'amélioration des capacités une progression personnelle, là par contre on peut être pour.
Une question aussi qui peut être peut-être ou pas intéressante à vous poser dans ce contexte, en tant que dirigeant d'une entreprise dédié aux nouvelles technologies, c'est quelque part une nouvelle ère qui s'est ouverte. C'est peut-être pas une nouvelle ère, pas directement, mais c'est l'utilisation d'une application pour suivre un problème sanitaire. Je veux parler de l'application. Alors, je sais plus comment il faut dire. Monsieur le Premier ministre a parlé à un moment donné de télé-Covid. Avant, c'était anti-Covid. Maintenant, c'est tous anti-Covid. Je me permets de vous poser la question. De quel œil vous voyez ça?
Moi, je vais être très très précis, hein. J'aimerais bien de relayer d'ailleurs. Comment c'est. Vous avez vu, et je trouve que cette communication est terrible, on vous dit que cette application Télé-Covid est géniale et simplifie la rédaction de votre fiche de droit de sortir, de votre attestation de sortie du domicile. Donc en fait, on vous fait passer presque l'inacceptable parce qu'il y a un avantage. Concomitant. L'inacceptable, c'est qu'avec ce type d'application, vous êtes suivi, vous êtes traqué partout, tout le temps. D'accord ? Donc en fait, vous êtes traqué pour des raisons essentielles qui sont des raisons liées à la santé. Tout individu conscient de son existence, sitôt qu'on lui parle de mort et de santé, évidemment, il va tout faire pour se protéger. Et quand on va instrumentaliser ce type de discours, évidemment, on va être prêt à tout. Et là où se pose vraiment la problématique, c'est une problématique de morale, en fait, de morale et d'éthique. Et aussi une problématique philosophique. L'être humain doit-il être transparent et devenir donc traqué, entre guillemets, partout, tout le temps? Et ça, c'est un sujet qui a déjà été traité, sur lequel comment les civilisations se sont positionnées. Et la réponse est non, en fait. Hein. Notre jardin secret, notre intimité, notre capacité à s'isoler d'une organisation, d'un groupe, c'est un sujet précieux pour l'être humain. C'est un sujet même d'équilibre pour lui. Et donc, en fait, savoir que l'on peut être traqué pour des raisons justifiées du suivi de santé, mais pas que, hein, parce que finalement, autour de cet enjeu du tout numérique, il y a d'autres aspects qui sont, par exemple, le paiement sans contact, le paiement en ligne, le paiement avec sa carte de crédit, on le connaît bien, mais aussi la possibilité, très vite, hein, parce que les technologies sont à terme, de payer avec son téléphone mobile. Bon, ben, globalement, une fois qu'on est capable de faire ça, si on n'a pas de frein, on arrive à la disparition d'un espace de liberté, qui est l'argent liquide, par exemple. Ben, la disparition du cash, c'est un sujet énorme dans la notion de la liberté de l'être humain.
Mais pour en revenir à l'application Tous Anti-Covid, on partage finalement pas énormément de données, mis à part la proximité ou non avec quelqu'un qui est Covid positif. Par rapport aux autres données qu'on pourrait partager avec d'autres GAFA, c'est peut-être négligeable, non ?
Non, pas vraiment. En fait, c'est même un peu plus insidieux que ça, parce que c'est du Bluetooth. Et le Bluetooth, en fait, vous donne un maillage de vos contacts. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est même plus tout à fait votre seule personne qui est en jeu. C'est vraiment un réseau, en fait, un maillage de mise en contact. Et à partir de ce maillage de mise en contact, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'aujourd'hui, les capacités de calcul sont réellement capables de vous suivre vraiment comme un atome dans une simulation, quoi, de type drone. Il y a de vraies problématiques sur ce sujet-là.
On est allé trop loin là, sur cette application.
Alors sur cette application, en fait, il ne faut pas la désolidariser de l'ensemble, en fait, hein, de la technologie. Mais il est assez certain que on a été non seulement loin, mais globalement, comme il n'y a pas eu de contre-pouvoir au frein, je ne vois pas comment il peut y avoir un retour. Moi, ce qui me sidère dans cette vision numérique et ce qui m'effraie, en fait, c'est l'émergence depuis, on va dire, une dizaine d'années et une accélération depuis 2016 d'un mec comme Elon Musk, par exemple. Elon Musk, au sortir du Covid, donc je remets un peu les dates, hein, au mois de mai dernier.
Du premier confinement, quoi.
Ouais, premier confinement.
Donc malheureusement, on y est toujours.
Ouais, on y est. Donc, premier confinement. Au lendemain, l'humanité est par terre, hein, complètement. On a tous été, je ne sais pas combien en proportion, mais peut-être les trois quarts de l'humanité confinés. Et donc, il y a un gars, tout seul, fait décoller une fusée avec des personnes à bord et les fait réatterrir, en fait, au nez et à la barbe de l'ensemble de l'humanité, de 7 milliards d'individus. Alors, soit c'est Dieu,
il a beaucoup d'argent.
Mais qui lui donne ? La question, c'est celle-là. C'est pas un État, en fait. Hein. C'est ni les Russes, ni les Américains, ni l'Europe. Hein. C'est un mec tout seul qui, en l'espace de une dizaine d'années, a mis difficulté, on va dire, 100 années de conquête de l'air et de l'espace. Ça, c'est la première question. Et en même temps, en parallèle, on apprend, et ça, c'est tout à fait récent, qu'il a fait des tests, en fait, de transfert d'informations dans l'esprit d'un cochon. Alors là, incroyable. On apprend aussi que par son projet Starlink, qui balance un nombre assez important de satellites dans l'espace. Et j'ai eu, moi, la surprise l'autre jour à Camaret, parce qu'à Camaret, en fait, on a la chance, on n'a pas de pollution lumineuse, on voit bien le ciel. De voir, en fait, comme un train de points lumineux à l'horizon, c'était à l'est, d'ailleurs. Et ce point, cet enchaînement de points lumineux, on m'a dit que c'était les satellites de Elon Musk. Alors là, je suis sidéré. Donc qui lui donne aussi cette capacité de production, d'intelligence et aussi cette autorisation d'aller squatter notre espace commun, hein, celui qui est le plus lointain de nous, mais celui que tout le monde peut voir. Ça m'interroge. Et puis derrière, il est devenu le spécialiste mondial de la voiture, il devient le spécialiste mondial de la batterie. Et ce gars-là, donc, se déclare clairement transhumaniste. Et je ne vois pas qui peut l'arrêter, en fait. Parce qu'on trouve ça cool. Il n'y a rien de cool à tout ça. Il n'y a absolument rien de cool à tout ça. Et c'est très important d'en discuter. C'est très important d'avoir des débats autour de ce sujet, autour de cette personne, et de savoir, comme vous le disiez, Pierre-Yves, qui sont les circuits de financement, quelle est l'ambition derrière tout ça, comment est-ce que tout ça a été rendu possible.
On évoque la question du transhumanisme. Pour les nuls, le transhumanisme, en quelques secondes.
En quelques secondes, le transhumanisme, c'est finalement l'homme augmenté, c'est-à-dire la capacité de reproduire par de la technologie, et peut-être même de le dépasser par la technologie, ce qui est capable de faire l'être humain. Tant en biomécanique, hein, on connaît les bras bioniques, on connaît ces éléments qui sont très 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 intimement liés aux prévisions de la science-fiction, mais au-delà de l'aspect biomécanique, eh ben, il y a l'aspect réflexion sur la conscience de l'humain, réflexion sur sa capacité à être un homme synthétique, quoi.
Voilà. Mais la question autour du transhumanisme, c'est peut-être de définir cette frontière. À partir de quand on franchit on est dans le transhumanisme? Est-ce que le téléphone portable, on y est?
Ben, en fait, je pense que le transhumanisme, c'est dès l'arrivée de la conscience, en fait, de l'humain. Hein. Donc, c'est un sujet important, la conscience, hein, de l'humain. Qu'est-ce qui nous différencie du monde animal à tel point qu'on ait l'impression ou du moins l'envie de le régenter complètement? Ça, c'est le premier sujet. Et donc, à partir du moment où on a cette position de puissance, il y a la position de faiblesse. À partir de la position de faiblesse, se pose la position du soin et de la santé. Donc en fait, le premier transhumanisme, c'est le thérapeute, globalement. Donc il se pose depuis l'aube de l'humanité, au final. Mais autour de cela, et peut-être aussi à cause de ça, ou grâce à cela, on va dire que les technologies évoluent. Aujourd'hui, ce qui est vraiment certain, c'est que le niveau technologique que nous avons atteint est extraordinaire et nous permet de considérer que nous allons passer une étape qui est une étape rêvée, qui est une étape presque transmise ou vue même par des prophètes. Et ces prophètes, on les a beaucoup vus dans le monde de la littérature, on les a beaucoup vus dans le monde du cinéma. Voilà. L'un des prophètes que j'apprécie particulièrement, c'est Ridley Scott, évidemment. Quand on voit sa filmographie, quand on voit comment les axes qu'il développe...
Orwell.
Là, quand vous me posez la question, moi j'ai été invité une journée technique. C'était Crédit Agricole qui organisait ça à Orléans, et il y avait Laurent Alexandre, que j'encourage les auditeurs à écouter. Hein.
Oh, juste aller faire un tour sur son compte Twitter.
Oh ouais, voilà. Non mais... truc de dingo, quoi. Et donc Laurent Alexandre faisait une conférence, je sais pas, ça durait une heure, je pense, une heure vingt. Toutes les 10 secondes, il te balançait des slides extrêmement intéressants, mais qui remettaient en cause ou qui auraient mérité en fait des débats de plusieurs semaines, de plusieurs mois, autour des plus grandes sommités scientifiques, philosophiques, intellectuelles de l'humanité, en fait. Et il balançait ça comme étant des vérités. À la fin de ça, il m'a semblé que cette jeune, parce qu'en fait c'était devant un public de jeunes start-upers en moyenne d'âge d'une trentaine d'années, les gars étaient à la fois comme inoptisé et comme sonné. Et moi qui suis un peu plus âgé, en fait j'ai une cinquantaine d'années, enfin j'ai 50 ans, je me suis permis de me lever, de prendre la parole en lui disant: écoutez, c'est juste odieux, parce que vous réalisez ce type de conférence avec un rythme effréné, dans une maîtrise complète de votre sujet, mais vous le faites devant une population qui, pour la plupart, n'ont pas lu 1984. Parce que finalement, ce qu'il décrit, c'est ce monde-là. Et il a été assez surpris de la question. Et donc au final, ouais, bien sûr, Orwell, Huxley commencent, et dans cette crise du Covid, on voit vraiment qu'ils sont maintenant omniprésents. Hein. Mais on se remet il y a quelques mois, ils n'avaient pas pris cette place autour de ce point générationnel. Il était présent bien avant. Et quand je parle de Ridley Scott, je parle de Cameron aussi. Ces gens-là ont vu des choses. Voilà, ça m'intéresse beaucoup.
Alors, dernière question. J'hésite, je ne sais pas laquelle vous poser pour terminer. Allez, je vais sur celle-là. La crise sanitaire actuelle débouchera ou débouche sur quelque chose de plus global, vraisemblablement. Vous devez vous poser la question, vous, pour conduire votre entreprise, vers quoi se projeter dans ce contexte fluctuant ? Comment on envisage la suite ? Quand on a les informations, là, à l'heure actuelle, et puis envisager, se projeter sur l'avenir ?
C'est une discussion même qu'on a eue au bureau, il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, quand on reprend Laurent Alexandre, il le dit sur l'une de ses vidéos YouTube, il est à Polytechnique, en fait, et il tient la conférence et il dit, s'ouvre devant nous, alors il est devant les élèves de Polytechnique, s'ouvre devant nous et devant vous un monde où vous serez, entre guillemets, les dieux. Et il pose la question des inutiles.
Les gilets jaunes. Entendu.
Et très clairement, il dit les gilets jaunes, c'est le premier épisode qui souligne cette rupture.
C'est ça, c'est les caissières contre Polytechnique.
Ouais, en fait, exactement. Mais c'est aussi une boîte de camarades, on a dans l'équipe des ingénieurs et des docteurs qui font partie, d'une phase non élitiste. D'ailleurs, il le dit dans la vidéo, je suis un horrible élitiste. Ben, globalement, mon mode de pensée, mon mode de motivation, c'est de considérer chez moi, surtout à Camaret, qu'il y a toujours en fait une place offerte à celui qui sera en difficulté dans la rue. Voilà. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa confession religieuse, quelle que soit sa difficulté. Voilà. Donc, autour de cela, il y a un autre pendant à la technologie, c'est l'humanité. Mais pour rentrer dans l'humanité, l'homme doit se connaître lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, les dieux. Hein, c'est Socrate qui le décline. Et ce sujet-là, en fait, porte des réponses à notre monde qui sont extraordinaires, mais qui ne sont pas du tout affiliés finalement ce qui est l'objectif du transhumanisme et ce qui est l'objectif affiché du GAFA. Hein. Un mec comme Google, par exemple, une société comme Google, le groupe Alphabet, c'est la recherche de l'immortalité. Donc quand on a d'un côté Elon Musk qui veut manipuler la conscience avec de la technologie et de l'autre la recherche l'immortalité, ben, globalement, on arrive à ce que j'avais lu il y a quelque temps, que tout le monde a lu, Matrix n'était pas un film, c'était un reportage. Et donc autour de ça se posent des questions qui sont des questions fabuleuses, dans lesquelles l'individu, la complétude de l'individu doit être analysée et un axe de recherche majeur. Il l'est, mais comment les moyens financiers donnés à ces technophiles là sont tellement énormes qu'il y a un enjeu de société, c'est évident.
Eh bien, merci beaucoup, David Pliquet, on le rappelle, dirigeant d'Imagine 3D, entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies, mais un petit peu différemment, installée à Camaret.
Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci.
L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts.